Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Bienvenue dans Univox, le rendez-vous hebdomadaire des mouvements jeunes et citoyens propulsé par le réseau Radio Campus France. Les Radio Campus scannent en permanence les initiatives étudiantes et tendent chaque semaine leur micro aux étudiants, citoyens, habitants et activistes des villes et des campus de France. Univox, c'est une radiographie bouillonnante et itinérante de l'écosystème étudiant. En partenariat avec AnimaFac et Pépite France, nous avons imaginé une série spéciale autour des étudiantes qui entreprennent et s'engagent. Aujourd'hui, nous parlerons de la passion de la jeunesse pour la création de nouvelles organisations dans des domaines aussi diversifiés que l'ESS. Et nous nous demanderons pourquoi porter un projet à impact est un acte citoyen. Pour répondre à ces questions, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui dans Univox William Roquier, président de l'association Footprint, ainsi que Elliot James, président de l'association Citizenship.
Univox.
Alors Citizenship, né en février 2018, a pour vocation de donner du sens au concept de citoyenneté. C'est une association apartisane qui permet à des jeunes de 16 à 30 ans de comprendre le concept de citoyenneté en développant par exemple des ateliers en milieu scolaire, en organisant des débats en milieu universitaire et des réflexions pour co-construire le monde de demain. La seconde organisation que nous recevons aujourd'hui se nomme donc Footprint. Une entreprise créée en 2022, son objectif est d'accompagner à la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à l'alimentation des Français, notamment auprès des structures de restauration collective. Les présidents de ces deux associations nous expliqueront dans un premier temps pourquoi ont-ils décidé de monter leur organisation au sein de l'ESS.
Univox.
Donc pour ma part, j'ai créé Footprint, c'était il y a maintenant environ 4 ans. Je suis arrivé en école d'ingénieur à l'ENSECUB, donc à Grenoble, qui est une école engagée dans l'environnement. Et si je suis arrivé là-bas, c'est parce que j'avais vraiment envie de m'engager. J'ai toujours été un amoureux de la montagne. J'ai toujours eu vraiment envie de m'engager pour l'environnement. Et il y avait un gros tissu associatif là-bas. Et je me suis dit, ok, j'ai envie de rejoindre quelque chose, mais je ne savais pas précisément quoi. Et c'est là que j'ai rejoint une asso qui s'appelait Enactus, qui est une asso d'entrepreneuriat social. Et là, j'ai commencé à travailler avec certains amis sur l'empreinte carbone. Et notamment, au bout d'un an, on s'est penché sur l'alimentation. C'est donc comme ça que j'ai commencé à m'engager. Et au final, c'est parti d'un projet associatif qui était juste dans le cadre des études et qui est devenu vraiment aujourd'hui un projet entrepreneurial et qui est devenu mon projet de vie que je vais mener sur le long terme.
D'accord. Donc à la base, c'était plutôt s'informer et puis ensuite, c'est devenu un engagement.
Exactement. À la base, c'était déjà un engagement dans le sens où j'avais envie de faire quelque chose par moi-même, d'avoir un impact positif sur l'environnement. Et donc, en fait, c'est ça. Ça m'a amené assez naturellement vers l'ESS, avec Enactus, qui était donc une asso d'entrepreneuriat social, donc de SS. Et donc, forcément, voilà, ça m'a amené là-dessus sur le volet environnemental.
Merci. Et vous, Elliot?
Alors, Citizenship, en fait, ça vient de deux constats. Ça vient d'un constat, d'abord, que la société est de plus en plus complexe à tous les points de vue. Ça peut se voir par rapport aux relations internationales, aujourd'hui avec, par exemple, le conflit et la guerre qui a lieu en Ukraine, le réchauffement climatique, où de nombreux acteurs sont interconnectés. Cette complexité, elle amène en partie, mais surtout, il y a d'autres raisons, que les jeunes se désaffilient de la politique. Ils participent de moins en moins dans des méthodes normales et commencent à voir le monde de demain se construire devant eux sans qu'ils puissent intervenir. Donc nous, en fait, on s'est construit sur l'idée de redonner aux jeunes les clés qui pouvaient leur permettre de saisir la citoyenneté. Alors on utilise des méthodes d'éducation active pour ce faire, on réalise des activités différentes comme des ateliers. Et en fait, pourquoi au sein de l'ESS? C'est simplement l'ESS, c'est la catégorie juridique qui nous regroupe et qui fait qu'on est à l'intérieur. C'est juste qu'on a des valeurs qui sont humaines et sociales et que c'est cette catégorie-là qui indirectement nous intègre.
Univox.
Par leur engagement, ils ont donc tous les deux choisi de monter des organisations faisant partie de l'ESS. Peut-être qu'un petit rappel de ce qu'est l'ESS s'impose. Le concept d'économie sociale et solidaire, donc ESS, désigne un ensemble de structures organisées sous forme de coopératives, mutuelles ou encore des associations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Un ancien étudiant nous présente plus précisément une de ces organisations et nous montre le genre d'impact qu'elles peuvent avoir.
Bah, je peux dire un exemple. En face de chez moi, il y a une épicerie locale qui vend des produits locaux. C'est une épicerie collaborative, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les personnes qui veulent acheter des choses là-bas, elles doivent s'inscrire sur le papier et elles doivent y travailler 3 heures par semaine. Et du coup, on a des prix qui sont plus bas parce que c'est uniquement des adhérents. Et en fait, en faisant les 3 heures, tu accèdes à des produits qui sont locaux, qui sont hyper intéressants et qui soutiennent l'écologie.
Nous verrons maintenant pourquoi faire partie de l'ESS est également une forme d'engagement citoyen.
Pour moi, c'est ce qui est assez intéressant sur les projets engagés pour l'environnement, c'est que j'y retrouve un engagement à la fois pour la planète et à la fois pour l'humain, donc pour les citoyens. C'est-à-dire que quand on s'engage pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc comme je le fais à travers Footprint, derrière, forcément, au-delà d'un impact sur l'environnement, sur la biodiversité, il y a aussi un impact sur l'humain. Aujourd'hui, nos émissions de gaz polluants, ça a un impact direct sur la santé, sur les cancers, sur la santé à court et à long terme. Et donc, ce que je trouve vraiment intéressant là-dedans, c'est d'avoir aussi un impact sur les êtres humains au sens large. Donc voilà, moi, cet engagement citoyen, je le vois vraiment comme un double engagement, à la fois pour les hommes et pour la planète.
Et Elliot ?
Porter un projet au sein de l'ESS est pour nous une forme d'engagement. Alors déjà, l'ESS, comme tu l'as très bien rappelé, c'est s'engager sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. En fait, c'est à contrario un peu de ce qu'on appelle l'économie normale dans la recherche d'un profit ou d'autres choses. Ils sont beaucoup dans une approche démocratique et participative et c'est quelque chose qu'on partage pour pouvoir arriver ensuite à construire avec des valeurs humaines à le monde de demain en réalité, ce qu'on peut faire. Et vu qu'on traite beaucoup des jeunes, de comment ils peuvent s'engager eux-mêmes et comment les intégrer, on est lié directement à cette forme de solidarité. On essaie de partager, d'échanger avec eux, de les faire grandir. C'est exactement ça ce qu'on fait. Et l'utilité sociale, bah, elle arrive ensuite quand les jeunes ont eux-mêmes pu acquérir en fait, les clés qui leur permettent de faire d'autres projets. On a des jeunes qui nous ont rejoints et qui, par leur parcours chez nous, aujourd'hui font d'autres choses. Et pour nous, c'est une formidable réussite, en fait, faut le dire.
Vous pouvez nous citer des exemples ?
Souvent, les jeunes qu'on reçoit sont des lycéens qui vont ensuite se lancer dans des études un peu plus lourdes. Alors, on a accompagné des gens qui voulaient aller après dans des Sciences Po. On a réussi, pas vraiment nous, mais à faire qu'ils y aillent pour certains. Et ça, c'était remarquable. Et il y en a d'autres qui veulent partir maintenant faire de l'humanitaire. Une jeune chez nous qui souhaite faire ça. On a aussi un jeune qui veut s'investir beaucoup plus dans l'écologie. On a fait un atelier sur l'écologie et il souhaite le faire.
Mais quelles sont les limites de l'engagement citoyen, selon vous ?
Alors pour moi, il y en a plusieurs, de plusieurs natures. Une première qui est une limite politique, dans le sens où, que ce soit au sein d'une université, au sein d'un département ou d'un pays, il y a forcément des volontés politiques qui ne sont pas toujours en faveur de l'engagement citoyen et qu'il faut parfois aussi provoquer. Et il y a aussi pour moi des limites qui sont vraiment majeures, qui sont à titre personnel quand on s'engage pour soi, pour les autres, quand on a un engagement citoyen, qui sont le temps, l'énergie, l'équilibre personnel. Ça, je sais que c'est une chose à laquelle je suis très vigilant parce qu'on est très vite submergé. Il y a beaucoup de personnes qui font une sorte de burn-out, de surengagement en fait.
Bien sûr.
Donc voilà, il y a vraiment cette santé, cet équilibre à trouver en gardant du temps pour soi, pour ses amis, pour faire du sport, pour continuer à vivre à côté en fait et pas juste faire engagement métro-dodo, comme on pourrait dire.
D'accord. Donc trouver une forme d'équilibre entre notre vie à l'extérieur, que ce soit les études, le sport et les amis, et d'un autre côté, l'engagement citoyen. Pour vous, c'est important ce genre de choses ?
Alors déjà, je partage complètement ce qu'a pu dire William sur ces limites-là. Je les ai connues personnellement et tous les membres de mon association aussi connaissent cette limite. Ils ont un travail souvent à côté ou alors des études, ce qui les limite. Ensuite, personnellement, je vois l'engagement citoyen comme une grande chose. C'est un peu l'histoire du colibri. C'est faire un peu à son échelle. C'est aussi l'histoire un peu du papillon. C'est un petit papillon qui va peut-être amener une grande tornade plus loin. C'est ce qu'en tout cas, moi, je vois, ce que j'ai pu voir par d'autres associations. Je vais juste en citer une qui s'appelle I Boycott, qui fait des campagnes de boycott sur des produits qui ont des effets néfastes à la fois sur l'environnement et sociaux. C'est une façon de faire que je trouve splendide. Il y a aussi d'autres associations qui interviennent pour l'aide aux sans-abri ou même pour les étudiants. Mais il y a des actions citoyennes qui ont un impact très significatif. et je trouve qu'il ne faut pas l'oublier. Ce qui fait que l'engagement, il a un pouvoir, un véritable pouvoir dans notre société aujourd'hui, ce qui permet de reprendre possession d'une forme de démocratie et pouvoir aller plus loin. Après, il y a des limites, c'est sûr, on ne peut pas tout faire en matière d'engagement citoyen. Donc je pense qu'il faut valoriser l'engagement citoyen avec les limites qu'a pu exposer William au maximum, en se rappelant quand même qu'il y a des choses qui se font par la politique au sens strict, c'est-à-dire essayer de se saisir du pouvoir pour changer des règles et des structures qui sont plus globales.
Dans quelle mesure, selon vous, les pouvoirs publics ont-elles un rôle à jouer dans l'engagement citoyen ?
Il y a un gros volet tout simplement financier. Là, aujourd'hui, je m'en rends compte en tant qu'entreprise sociale. J'essaye de vendre des services à des structures publiques et privées. Donc, pour résumer, pour faire un calcul et un affichage de l'impact environnemental des plats en restauration. Et quand je suis confronté à des restaurations privées comme les Crous, les cantines scolaires, donc, qui peuvent être gérées par les régions, par les départements, il y a toujours une question de fonds alloués à ça. Et assez souvent, dans le public, encore aujourd'hui, il y a un manque de financement dédié à tout ce qui est développement durable et plus largement, je pense, engagement citoyen. Donc pour moi, le rôle des pouvoirs publics, c'est vraiment d'avoir des politiques qui sont beaucoup plus axées en faveur de ça, que ce soit pour l'environnement, que ce soit pour le social. Et dès que les fonds sont là, derrière, ça débloque énormément de choses, que ce soit en termes de soutien à des projets associatifs, que ce soit en termes de payer des services aussi proposés par des entreprises sociales, ou même financer des campagnes de communication, organiser eux-mêmes des activités avec le grand public. Il y a beaucoup d'emplois aussi à créer de ce côté-là, et forcément des emplois, ben derrière, ça va leur coûter de l'argent.
Bien sûr, peut-être que au final, les pouvoirs publics ont également un rôle à jouer là-dessus, notamment sur le financement, comme tu viens de l'énoncer. Et qu'est-ce que vous en pensez, Elliot ?
Les pouvoirs publics en soi, et surtout l'État, c'est un peu les organes du social. Ils interviennent en fait dans toutes les branches de la société, dans l'éducation, le travail, la retraite, en fait dans toute la vie des citoyens. Ce qui fait qu'ils ont bien sûr un rôle à jouer dans l'engagement de chacun et dans la structure de la société. Après, toute la question, c'est comment les pouvoirs publics peuvent intégrer les citoyens à leurs décisions sans que ce soit descendant et qu'on ait quelque chose où ce n'est plus les citoyens qui parlent mais plutôt ce que certains appellent la technocratie ou quelque chose de comparable. La chose est que les pouvoirs publics, à mon avis, s'ils ont un rôle à jouer dans l'engagement des citoyens aujourd'hui, c'est vraiment par l'écoute et l'échange des citoyens, c'est-à-dire leur intégration. Il y en a qui parlent de démocratie participative ou l'autre qui parle de démocratie permanente. C'est vraiment cette idée de faire en sorte que le citoyen soit intégré, quelles que soient ses idées, pour essayer d'amener quelque chose de commun, faire du ensemble. Après, la chose est qu'il y a aussi des freins à la citoyenneté qui sont identifiés depuis longtemps, et ces freins à la citoyenneté, je pense qu'on les abordera un peu plus tard, mais là-dessus, il y a aussi une intervention des pouvoirs publics qui doit être réalisée dans l'éducation à la citoyenneté, dans les revenus aussi, la répartition des richesses. Pour être plus clair, c'est que les pouvoirs publics peuvent intervenir pour que chacun ait accès en fait, à la citoyenneté et même à ses potentialités.
J'ai l'impression dans la manière dont vous parlez que vous ressentez le besoin d'être plus soutenu peut-être par les services publics,
ouais.
Par les pouvoirs publics.
Après, c'est difficile de faire des généralités.
Bien sûr.
Il y en a qui sont très présents. Je sais que nous, par exemple, le Crous nous a permis de lancer le projet, nous a soutenus aussi financièrement et par d'autres aspects. Donc il y a des services publics qui sont très engagés aujourd'hui. Ça se développe de plus en plus, mais c'est encore insuffisant.
Ok.
En effet, si je puis me permettre, nous aussi, en fait, on a été soutenus à la fois par des universités. Il y a Paris 1 qui nous a donné des financements au début pour nous lancer. Il faut se rappeler aussi qu'il y a les maisons des associations qui sont présentes dans chaque ville, qui accompagnent au développement. Il y a bien sûr le Crous. À côté du Crous, on a les mairies en général et même des fonds qui sont à la fois régionaux et départementaux. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est mis en place. Après, au niveau plus global, on pourrait imaginer un changement et une modulation pour qu'il y ait une meilleure intégration et que les associations aient peut-être plus de place ou reçoivent plus de fonds, comme l'a dit William. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites, il faut les féliciter.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
On entend beaucoup que les jeunes se désengagent des questions citoyennes. Citizenship ainsi que Footprint nous prouvent que de nouvelles formes d'engagement inclusif sont encore mises en place par les jeunes étudiants. En quoi votre projet permet à votre public ciblé d'exercer leur citoyenneté ?
Alors concernant Footprint, il y a plusieurs leviers d'action. Il y a le premier, comme j'en parlais, qui est l'affichage environnemental, où là, en fait, on va tout simplement transmettre une information. Donc là, dans les restaurants Crous pour les étudiants, dans les restaurants d'entreprise pour les salariés, etc. Et on apporte donc cette information d'impact environnemental des plats. Et ça, ça permet aux convives de la restauration de pouvoir, s'ils le souhaitent, prendre en compte cet impact dans leur choix. Ils peuvent choisir de manger un plat qui va être dans le verre un jour, ils peuvent choisir au contraire de ne pas le faire. Nous, on a vraiment un rôle d'apporter cette information et donc on leur permet derrière de faire leur choix en connaissance de cause. Et c'est quelque chose qu'ils ne pourraient peut-être pas faire si on n'était pas là, parce que l'impact environnemental des aliments, c'est quelque chose qui est encore très peu connu. On sait que la viande, ça va être moins bien que les légumes en moyenne, mais y a beaucoup d'infos encore à transmettre. Ensuite, il y a un volet de formation qu'on est en train de déployer. On a déjà fait des formations sur le bilan de gaz à effet de serre pour des étudiants sur Grenoble et sur Lyon. Donc ça, pareil, plus largement que sur le volet alimentation, ça permet de donner les clés pour mieux comprendre comment fonctionne le réchauffement climatique, quelles sont les actions qu'on peut mettre en place à notre échelle individuelle. Et donc ça va aussi leur permettre aux personnes qui bénéficient des formations d'avoir un engagement au quotidien qui soit plus cohérent avec les objectifs vers lesquels on doit tendre.
Alors, nous, notre public cible, on lui permet d'exercer la citoyenneté. Déjà, faut rappeler, enfin, on l'a déjà dit, mais Citizenship, c'est une association d'éducation à la citoyenneté. Donc, nous, on intervient auprès des jeunes et on essaie de les sensibiliser, leur faire se saisir de thèmes comme l'écologie, la démocratie ou encore l'information, les fake news. C'est un peu les trois thèmes qu'on a abordés l'année dernière. Et pour ça, en fait, on va les accompagner. On va les accompagner pour qu'ils montent par eux-mêmes des moments d'échange ou de débat, soit dans leurs établissements, donc dans les lycées, dans les universités, soit dans des structures spécifiques, des maisons d'association, des maisons de quartier. Ça dépend un peu de ce qu'ils veulent faire exactement. Donc on les accompagne là-dessus. Après, ils le réalisent ce moment-là et souvent, ils vont avoir des idées qui vont émerger. Ils vont comprendre qu'il y a des actions qui peuvent mettre en place. Et après, il y a certains qui se saisissent de ces actions. Donc, un processus un peu complet. On n'accompagne pas complètement sur les actions. On les laisse souvent après autonomes parce qu'ils découvrent leur autonomie et donc c'est très très beau. Et après on réalise aussi mais là c'est à d'autres niveaux des podcasts sur des thèmes. On a réalisé un podcast sur l'Ukraine parce qu'une de nos bénévoles est partie en fait en Pologne où elle a aidé des réfugiés là-bas et donc elle a expliqué un peu ce qu'elle faisait. On réalise aussi des petits articles et des infographies. Au total, on essaie de rendre, on va dire, la citoyenneté beaucoup plus accessible pour que après elle soit beaucoup plus simple et que les jeunes puissent en saisir.
J'ai l'impression que dans vos deux associations, vous visez majoritairement les étudiants ou encore les plus jeunes. Vous pensez que c'est ce public-là qu'il faut cibler en priorité ?
En fait, oui, les jeunes sont à cibler en priorité sur quand on parle de certains enjeux. Ça va être eux qui vont être les plus réceptifs, peut-être les plus ouverts d'esprit, que ce soit vraiment les très jeunes ou les étudiants. Donc c'est un public qui est très intéressant à cibler et avec lequel on pourra avoir un impact sur le long terme. Après, effectivement, je sais que pour ma part, vu que je parle beaucoup de gaz à effet de serre, de changement climatique et que c'est quelque chose qui est très urgent, il faut aussi cibler les personnes plus âgées parce que ça passe vraiment par l'engagement de tout le monde.
En effet, il ne faut pas cibler que les jeunes, mais c'est vraiment l'idée de se dire que le monde de demain sera construit par les jeunes. Et c'est vrai qu'il y a des grandes questions qui se posent. Bien sûr, le réchauffement climatique que nous-mêmes on a intégré tellement l'importance était capitale. Et je pense que tout le monde l'a compris et j'espère qu'aujourd'hui tout le monde l'a compris. Mais il y a aussi d'autres thèmes, les inégalités sociales, ça fait partie des thèmes, l'accès à l'information aujourd'hui avec la présence d'Internet. Enfin, il y a des thèmes qui sont globaux et c'est bien que les jeunes s'en saisissent parce que c'est eux qui doivent décider, je pense, pour demain. Après, la chose qui peut être déploré, c'est qu'il n'y ait pas assez de lien entre ce qu'on appelle les jeunes et ce qu'on appelle les vieux. Et c'est plutôt ça qu'il faudrait arriver à construire pour qu'il y ait une écoute. Parce que souvent, les réclamations des jeunes, et si on voit les choix politiques qu'ont fait les jeunes ces derniers temps, par rapport aux choix politiques de ce qu'on peut dire des vieux, n'ont pas été identiques. C'est là où il y a, je pense, une question, des choses à faire. Nous, si on s'applique sur les jeunes, c'est qu'on pense que c'est l'avenir et donc que c'est sur eux qu'il faut investir. Mais je pense qu'il faut aussi, il y a des associations qui le font très bien, intervenir auprès des personnes un peu plus âgées pour pouvoir changer en fait certaines modalités de notre société.
Univox.
Comment est-ce que vous faites pour rendre vos services plus accessibles à toutes et à tous ?
Alors, de notre façon, l'association en fait, elle est ouverte à toutes et tous. C'est-à-dire qu'on n'a pas de distinction. quel que soit. On a juste une modalité sur nos cotisations qui permettent que ce soit selon le revenu. C'est-à-dire que plus la personne est jeune ou plus elle a des difficultés de revenu, moins elle aura à cotiser. Voire elle n'aura pas à cotiser du tout. Ce qui fait qu'on s'adapte à ce niveau-là. Après, pour tout ce qui est des handicaps invisibles ou de l'inclusivité par rapport à des publics beaucoup plus discriminés, on est bien sûr dans l'ouverture, et là c'est grâce à AnimaFac en particulier qu'on se forme pour pouvoir être habilité lorsqu'il y a des cas spécifiques à pouvoir répondre aux attentes.
Côté footprint, en tant qu'entreprise, l'idée c'est vraiment de pouvoir grandir pour pouvoir avoir plus de personnes qui travaillent sur l'entreprise, donc plus d'impact derrière. Forcément, on va pouvoir toucher plus de clients, et toucher plus de clients, ça veut dire aussi rendre notre affichage et nos formations accessibles à plus de personnes. Donc après, il y a une chose qui peut favoriser l'accessibilité de nos services. Comme je le disais, les pouvoirs publics n'ont pas toujours les financements au bon endroit pour ça. Donc un modèle qu'on peut envisager et qu'on envisage aujourd'hui, c'est de rendre les services moins chers pour les structures publiques, en faisant payer plus les structures privées qui ont beaucoup plus de moyens alloués à la RSE, et notamment au développement durable. Donc ça, pour nous, aujourd'hui, c'est le meilleur levier d'action pour rendre les services plus accessibles, pouvoir toucher un maximum de personnes. Et derrière, en fait, forcément, si on a un modèle économique qui est plus solide, qui marche mieux, qui est plus pérenne, on va pouvoir toucher plus de personnes.
Univox.
Donc se développer au sein de l'ESS, c'est aussi savoir contribuer à la préservation et au développement du lien social, ou au maintien, au renforcement de la cohésion territoriale. Citizenship, ainsi que Footprint, ont su s'entourer de nombreux partenaires pour développer leur impact au sein de notre région, Auvergne-Rhône-Alpes, ou même à l'échelle nationale.
Alors Citizenship, elle a commencé à se développer à Paris, c'est donc là que se trouve la majorité de ses bénévoles, et on a commencé peu à peu, à la fois avec la crise sanitaire et en raison du déplacement de certains de nos bénévoles, à nous développer dans d'autres villes et dans d'autres endroits. Alors là, on a eu, par exemple, on s'est développé à Douai, près de Lille, à Grenoble, à La Ciotat, donc on a touché à la fois la région Auvergne-Rhône-Alpes comme d'autres régions, et ça a été possible par un dialogue entre différentes parties prenantes de la vie citoyenne, à la fois les universités, les collectivités. Pour citer que ça et pour un peu expliquer, nous on marche beaucoup avec les lycées, donc c'est au niveau des lycées qu'on a tissé des liens spécifiques dans certains endroits, avec les facultés aussi, avec l'UGA peut-être un peu moins parce qu'on n'a pas eu vraiment le temps en soi, mais on l'a pu le faire à Paris 1 sans problème, on a pu le faire aussi avec une université, et c'est ce qu'on est en train de faire au niveau de Lille, enfin avec un lycée là-bas en tout cas, et bien sûr en fait ce qui est le plus important je crois qu'avec les acteurs c'est les associations en soi, enfin le fait même qu'on soit ici dans cette salle en train d'enregistrer ce podcast, ça montre qu'il y a un lien entre les associations. Il y a aussi des réseaux d'associations comme AnimaFac qui permettent de fédérer le tout. Je trouve que c'est ça le plus important, ce qui apporte vraiment un aspect humain à nos engagements. C'est qu'on puisse échanger, qu'on puisse...
La solidarité.
Cette solidarité, voilà, qu'on vit ensemble, qu'on partage ensemble sur des domaines que l'on apprécie. Donc, le développement territorial ou même le développement des associations en général, ça passe par cette rencontre et ces multiples partenariats entre acteurs. Et c'est indispensable.
Pour nous, le développement territorial, il se fait d'abord dans la région. Donc on a commencé avec le CROUS de Grenoble, on est en train de signer nos premiers contrats sur Lyon et sur Grenoble. Après, c'est un projet, c'est une entreprise qui peut fournir des services à l'échelle nationale. On peut gérer beaucoup de choses à distance et pour nous, l'idée, ce serait vraiment de pouvoir toucher un maximum de personnes, pas uniquement dans la région, même si bien sûr, on favorise d'abord les régions qui sont pas loin parce qu'il va y avoir des déplacements de temps à autre et on cherche aussi à limiter nos déplacements pour limiter notre bilan carbone. Après, on pourrait pas se développer, du moins, c'est pas prévu à l'international, parce que quand on parle d'impact environnemental des aliments, il y a des bases de données qui sont faites à échelle nationale. Et nous, voilà, on se voit vraiment rester en France et donc en priorité dans la région. Après, en ce qui concerne les différentes parties prenantes, effectivement, il y a beaucoup d'interactions. Je me souviens, quand j'ai lancé le projet, avoir pas mal discuté avec des membres de Grenoble INP, de l'UGA, avec du coup le CROUS comme j'en parlais. Je pense que plus il y a d'interactions, plus on va pouvoir générer de l'impact. Pour citer un exemple, aujourd'hui on travaille avec l'association Assiette Végétale, qui est une association qui va former les cuisiniers en restauration collective à la cuisine végétale. Et donc voilà, c'est vraiment cette synergie qu'on peut créer qui va faire que entre entreprises et associations, on peut apporter des services et des formations qui sont complémentaires et pour derrière maximiser l'impact qu'on va avoir sur, sur bah, là, en l'occurrence, la restauration.
Merci beaucoup. Donc, vous avez fait référence tout à l'heure à l'un de vos projets, moyen et long terme. Ça me permet de rebondir sur la question. Comment est-ce que vous voyez le futur de votre action citoyenne?
Donc avant tout, ouais, je pense que William dira pareil. Le but, nous, c'est de faire grandir notre projet, c'est pouvoir le développer. Et le futur de l'action, en fait, il se base sur la construction d'une équipe soudée. Donc, c'est ce qu'on a fait cette année. On a construit une équipe soudée qui commence à travailler donc, sur tous les projets qui arrivent à se développer pour qu'en fait, il y ait un enrichissement de tout le monde, à la fois de l'équipe et des bénévoles, et qu'on puisse avancer. On espère, en fait, dans les années à venir, pouvoir recruter un service civique ou voir plusieurs services civiques pour pouvoir intervenir et nous aider dans nos activités. Et ensuite, il y a toute une partie aussi très administrative, avec une demande d'agrément auprès du ministère pour faciliter nos interventions ou des demandes de subventions. Donc notre futur, c'est le développement, c'est de développer notre activité en restant sur notre cœur de métier, si je pourrais dire, qui est la formation citoyenne, et cela en intégrant le plus de monde et en faisant vivre une forte d'écosystème intérieur.
Effectivement, nous, on cherche aussi à se développer, donc comme je disais tout à l'heure, à recruter des personnes, à maximiser notre impact, à avoir plus de clients pour toucher plus de personnes. L'idée, c'est pas d'être une entreprise qui va générer énormément de bénéfices, c'est d'être viable, c'est de pouvoir vivre de notre activité. Pour moi, c'est l'idée dès le départ, c'est de pouvoir avoir un engagement tout en faisant en sorte que cet engagement me fasse vivre. Donc voilà, ça c'est vraiment la façon dont je vois les prochaines années. Après, moi j'ai une vision peut-être un peu particulière, contrairement à la plupart des entrepreneurs, c'est que je me vois pas dans peut-être 10, 15, 20 ans, continuer à faire la même chose et à porter mon bébé d'entreprise jusqu'au bout. Moi, j'ai envie de le développer, de participer à ce que ça se développe, que ça touche beaucoup de personnes. Mais je pense qu'au bout d'un moment, surtout vu que je m'engage sur des sujets qui sont vraiment très importants maintenant et qui seront peut-être abordés différemment dans 10, 15 ans, Enfin, c'est peut-être un peu collapso comme façon de voir les choses, mais disons que quand on parle d'environnement, dans 10-15 ans, on se rendra peut-être compte qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut plus trop faire demi-tour. Et donc peut-être qu'à ce moment-là, je me dirais, ok, j'ai plus envie de concentrer mon énergie sur moi-même, sur être vraiment en pleine cohérence avec mes valeurs, avoir un mode de vie totalement cohérent, et voilà, avoir juste un engagement qui sera toujours présent, mais qui sera différent. Après, bien sûr, il peut arriver beaucoup, beaucoup de choses d'ici là.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Merci à William Roquier, donc président de l'entreprise Footprint, ainsi qu'à Elliot James, donc président de l'association Citizenship, pour avoir répondu à nos questions sur Radio Campus Grenoble, mais également nous avoir montré que l'espoir existe encore chez certains jeunes et que l'ambition de créer un monde meilleur subsiste encore. Merci à vous de nous avoir écoutés sur Radio Campus Grenoble. C'était Univox.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.